Et donc du tourisme tout à fait important. Et il faut savoir préserver en essayant d'éviter le fait qu'on fait baisser l'eau l'été pour pouvoir la stocker l'hiver. C'est un peu dommage parce que c'est un peu à contre-temps.
Oui, juste sur ce sujet de l'eau, quand on parle de l'eau à nos concitoyens, ils parlent assez spontanément de l'eau qu'ils utilisent, qu'ils rejettent, hein, l'eau potable, avec de rappeler. La nécessité de savoir ce qu'on paye est fondamentale. Moi, j'ai eu l'aventure à Valonnez qui est parallèle mais pas identique. C'est-à-dire qu'on a envisagé de passer en régie. Et donc, on s'est obligé pendant un an à comprendre la facturation. Et puis, on a exposé nos travaux aux différentes sociétés susceptibles de renouveler une DSP. Et quand ils ont vu qu'on avait compris, on a repassé à marcher avec eux en baissant le prix, sans avoir le boulot à faire. Donc, comprendre ce qu'on fait, c'est toujours porteur. J'attire l'attention sur le grand cycle de l'eau qui pose problème à terme, et avec beaucoup de contradictions. Vous savez que dans le Morvan, on travaille sur la continuité écologique des cours d'eau, qui suppose qu'il y ait le moins de retenue possible. Et l'évolution du climat me conduit à vous dire qu'un certain nombre de pratiques agricoles vont devoir penser à quelques transferts d'excès d'eau hivernaux vers des réserves pour certaines périodes de déficit estival. C'est totalement contradictoire. De la même façon que la baignade et la protection contre les crues d'automne. Et donc, il faut, sur l'ensemble du système hydrographique, une gestion plurifactorielle qui demande beaucoup de compétences et surtout un débat démocratique avec une adhésion de la population qui ne va pas s'étonner à chaque fois que son objectif du jour est un peu contredit par la politique générale du bassin, venir protester parce qu'il n'y en a pas assez alors qu'on en voudrait plus, alors que 3 mois plus tard, ce sera le contraire. Il faut vraiment une appropriation civique de ces problématiques, sinon on ne parviendra jamais à contenter tout le monde.
Personnellement, je suis tout à fait heureux de pouvoir entendre les édiles, les grands administrateurs évoquer globalement de manière très synthétique l'ensemble des problèmes qui vont se poser au Morvan s'il veut définir un avenir positif et optimiste. Mais je crois qu'il ne faut peut-être pas oublier dans l'ensemble des problèmes qui sont posés et dans l'ensemble des institutions qui sont concernées la question de l'école. Dirais-je, c'est professionnel, bien entendu. Mais si on veut réfléchir à l'avenir du Morvan, on devrait se poser cette question. Quelle sera la place de l'école élémentaire, de l'école secondaire, dans une définition du genre d'attrait que le Morvan pourrait exercer sur de nouveaux venus? Les nouveaux venus qui viennent ne sont pas tous des retraités. Ce sont des familles avec des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui leur montre qu'il y a dans l'école morvandelle une originalité qui devient attrayante et intéressante? Alors, ça pose la question des programmes, ça pose la question de la quotidienneté de la classe, etc. Quelle est la place faite, si vous voulez, à une prise de conscience par le citoyen devenu morvandiaux de ce qu'est le Morvan, de ce qu'il a été et de ce qu'il pourrait être? Est-ce qu'une place peut être faite? Est-ce qu'elle est faite actuellement dans l'école à ces travaux pratiques, à ces lectures, à ces exercices de réflexion sur le passé, sur l'histoire, qui concernent spécifiquement le Morvan? Il ne s'agit pas d'oublier Napoléon ni de Gaulle, hein, mais de se demander un petit peu si le Morvan a une existence. Quelles sont les caractéristiques, comment dire, intellectuelles, culturelles, artistiques, bien entendu, morales, psychologiques, je dirais presque anthropologiques, du Morvandiaux et de son Morvan? Alors, est-ce que l'école, actuellement, dans le Morvan, est prête à faire ça?
L'école dans le Morvan, elle est confrontée aussi à une uniformisation des méthodes et des objectifs qui n'est pas tout à fait. C'est un petit peu comme si dans un jardin potager vous décrétiez de ne faire que des radis. D'abord, ça marche pas bien. Ensuite, il y a des endroits où on ferait mieux de faire autre chose, et donc on n'a rien du tout, parce qu'on n'a pas de rapidité. Ça, si vous voulez, l'ennui m'acquitte un jour de l'uniformité, et quand l'ennui est dans l'école, on va pas loin. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi, encore une fois, le corps enseignant est très varié, certains portent des valeurs particulières, intéressent les élèves au contexte dans lequel ils vivent, d'autres leur montrent le monde à travers une tablette en oubliant que par la fenêtre on en voit largement autant. La qualité n'est pas uniformément répartie dans le corps enseignant. Dans les premières générations derrière moi, je parle avec beaucoup d'amour et beaucoup de percussion. Moi je crois que l'enseignement, comme je parlais tout à l'heure des activités de loisirs et de sport, fait partie des capacités d'excellence des territoires ruraux en général et du Morvan en particulier. J'en veux pour preuve que dans les années 50, il était du meilleur aloi d'envoyer ses enfants faire leurs humanités en pension à la pierre qui vit. D'autres allaient en Suisse. Il fallait des moyens, c'était relativement coûteux. Ce qui est bon pour les riches, mesdames et messieurs, est rarement mauvais pour les pauvres. Dans le lycée d'Avallon, nous avons un internat, je parle du secondaire, à moitié vide. Pendant que dans l'Essonne, des jeunes et des parents manifestent parce qu'ils n'ont pas de place à l'internat pour suivre leur formation. Est-ce que dans notre beau pays, on ne pourrait pas mettre les bosses dans les trous de temps en temps pour que ça avance plus facilement? Le lycée d'Avallon dans Lyon est le meilleur au niveau des résultats pédagogiques entre attendus et obtenus en fonction de la qualité de l'histoire. Le meilleur de Lyon. Personne ne le dit. Personne ne le fait, et même le journal local se trompe dans son éditorial en ramenant à Auxerre, la capitale, le fleuron d'enseignement que la petite capitale du Normandie avait péniblement gagné. Oui, nous avons des capacités, nous avons de l'excellence à offrir à nos jeunes et aux jeunes d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Et pour répondre également, enfin pour répondre, pour apporter un élément de formation à la question posée par M. Garand, j'ajouterais qu'ayant vécu dans différents points du territoire, et notamment en Bretagne, et notamment en Corse, et aussi en Guyane, il y a dans tous ces secteurs géographiques des spécificités qui sont aménagées en respectant, bien évidemment, l'unité nécessaire pour les fondamentaux, pour le cursus scolaire de ces jeunes gens, mais que des parties complémentaires peuvent venir s'ajouter, doivent venir s'ajouter pour respecter, et s'ajoutent lorsqu'il y a la volonté de le faire dans les communes concernées, et s'ajoutent donc à cette vie scolaire. Et c'est très important, c'est une question effectivement qu'il faut privilégier.
En quelques mots aussi, je veux dire aussi, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez remarqué que j'ai tendance à globaliser, on n'a jamais lu et écrit autant qu'aujourd'hui. Pas de la bonne façon, mais pour cas, s'il est bon. Non, sur le reste, il y a quand même des outils qui existent, que ce soit l'école en Morvan, portée par le parc et évidemment par Christian Guyot, la maison du patrimoine oral, qui sont des outils qui sont sur cette, je ne dirais pas identité, mais culture morvandaine, qui sont un mot plus intéressant. Bon, ce sont assez classiques, on les retrouve dans d'autres territoires qui ont une des cultures aussi fortes. En revanche, il y a peut-être des choses, deux choses, trois choses. La mise en œuvre sur la partie nivernaise de la coopérative des savoirs, qui est un outil, un réseau d'échange de savoirs, comme son nom l'indique, et qui permet justement de revisiter ou de mieux s'approprier la culture morvandaine. Le sujet aussi, au niveau de l'école, des bassins pédagogiques, qui ont malheureusement disparu ces dernières années, mais qui continuent à exister sur certains territoires, où on a des enseignants qui sont déchargés pour faire vivre un projet d'école, en général un projet d'école et de collège, où la culture locale est bien entendu un élément extrêmement important. Et puis, un sujet qui nous importe beaucoup, et je crois que c'est la prochaine étape de l'histoire des collèges, que fait-on de ces bâtiments pendant les périodes de vacances scolaires? Quand va-t-on enfin pouvoir rentrer dans les collèges? On pourrait très bien tout à fait imaginer, alors, pardon des anglicismes, hein, des summer schools, des écoles d'été, avec la richesse que nous avons ici, la qualité des intervenants qui seront et autour de la table et assis devant, tout à fait en capacité de proposer des formations. On a, je me souviens, Jean-Pierre Michel Zinck, qui est le spécialiste de la littérature médiévale en Europe, professeur au Collège de France, qui vous a fait une intervention remarquable à Lorient il y a quelques mois maintenant, sur. Les gens qui faisaient de la musique, là, qui était absolument remarquable.
Vous en aurez cet après-midi.
Absolument remarquable. Donc on a, et c'est aussi une force du Morvan, une richesse intellectuelle, une richesse humaine, de talent. Chez nous, à l'ordre, à côté de Michel Zinck et Jean-Pierre Lacroix, nous avons aussi l'ancien recteur de l'Académie d'Amiens, qui est prof d'attractivité économique aux quatre coins de la planète. Donc on a ces capacités, il faut les faire venir dans les collèges, il faut ouvrir ces classes, et le faire au travers de l'enseignement peut-être le plus classique, mais aussi de notre particularité locale. Pardon,
Non, pas du tout.